Voigny. Cette semaine, Alban Penaranda rencontre Ariane Ascaride. Ce soir, Ariane et Robert, une rencontre.
Ariane Ascaride, bonsoir.
Bonsoir.
Ariane Ascaride, vous êtes au cœur, au centre d'une aventure cinématographique que mène Robert Guédiguian depuis près de 40 ans. Un cinéma de bande, une aventure familiale, amicale, fraternelle, le mot serait plus juste, dont il n'y a sans doute pas d'autres exemples dans l'histoire du cinéma. Une œuvre réaliste et pas, qui, dans le local le plus souvent, cherche l'universel. Une œuvre travaillée par des questions historiques, politiques, sociales, par des questions tournant autour de l'héritage, de l'origine, et aussi, ce que l'on souligne peut-être moins, par la question du désir. Comment voyez-vous la place qui est la vôtre dans cette aventure? Comment la décririez-vous? Comment la cerneriez-vous?
C'est une question très difficile, celle-là. La première chose que je dirais, c'est que j'ai une chance incroyable. En fait, je crois que c'est pas véritablement une chance, parce qu'on l'a construit, ça. C'est, la chance, elle vient juste de la rencontre, du moment de la rencontre, de ce hasard objectif, comme disaient les surréalistes, j'en sais rien, qui fait qu'un jour on se rencontre, Robert et moi, à l'université, que il me déplaît profondément dès le départ, que je me dis qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui vient me dire que j'ai bien parlé parce que j'étais venue faire un discours en tant que représentante du syndicat des étudiants et qui vient comme ça me dire c'est bien petite, bien parlé. Et donc vraiment ça m'a énormément énervée. Et après en fait on s'est recroisés dans les couloirs de la fac et bon c'était juste parce qu'il était de l'Estac quoi, c'est-à-dire que c'est quand même le repère des machistes, je connais pas de repère de machistes plus fort que l'Estac, mais ils ne sont pas que machistes, ce sont aussi des hommes absolument formidables. Donc voilà, d'un coup on s'est découvert, on s'est mis à parler, puis voilà, on s'est rendu compte qu'on avait plein de liens, que ce soit des liens littéraires, que ce soit des liens émotionnels, que ce soit des liens culturels, que ce soit des liens politiques. Et puis que voilà, je crois que en fait, je lui plaisais plus que ce qui me plaisait. Remettons les choses à leur place. Hein. Puis en fait, il m'a beaucoup plu après parce que c'est quand même un garçon aussi qui peut être très drôle. Ça se voit pas beaucoup, il le montre pas beaucoup, mais c'est un garçon qui peut avoir énormément d'humour et qui est une chose très importante pour moi dans la vie. Et puis, je crois que c'est une vraie rencontre parce que c'est mon meilleur ami. C'est que je peux compter sur lui, comme il peut compter sur moi. Vraiment. Et puis voilà, on a décidé de partir, enfin, il a décidé de venir, de me suivre, parce que moi, j'avais déjà décidé de venir à Paris. Et ça, il était hors de question que ça bouge. Et il a décidé de me suivre, il m'a suivi au grand drame de sa mère. Et pour le grand drame de sa mère, oui, vraiment. Et puis, ce garçon, un jour, a quitté le Parti communiste français, a été dans de la désillusion profonde, mais en même temps, a toujours eu un rapport politique à la réalité. Et le fait de fréquenter, du coup, de fréquenter que des gens qui faisaient du théâtre ou qui faisaient du cinéma ou des choses comme ça, il s'est dit que pour continuer à parler du monde, parce que c'est ça qui l'intéresse, eh ben, il allait faire du cinéma. Et comment faire du cinéma? C'est mieux de faire du cinéma avec ses copains. Donc voilà, c'est parti vraiment comme ça. Et ça a été le mariage entre les gens de ma classe, c'est-à-dire Jean-Pierre Darroussin particulièrement, et Gérard Mélan, son copain d'enfance, son copain du quartier.
La rencontre de deux bandes.
C'est la rencontre, absolument, c'est la rencontre de deux bandes, et qui se sont énormément apportées, et qui continuent à s'apporter, parce que les uns ont apporté, je dirais, peut-être l'artistique, un rapport au monde un peu plus fantaisiste, les autres ont apporté un rapport, un regard sur la réalité, une volonté de se défendre, une volonté de défendre une culture populaire, et cette chose-là, ce croisement-là, qui fait que j'ai bien aimé, vous avez parlé de fraternité, c'est un mot que j'aime beaucoup, hein. Et c'est un mot qui fait partie de, hein, sur les écoles, il y a écrit liberté, égalité, fraternité. C'est un mot que j'aime énormément, la fraternité. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une mise en pratique d'une certaine fraternité et d'une amitié, véritable.
C'était comment la vie matérielle sur les tournages, mais aussi à la maison, dans les premières années du cinéma de Robert Guédiguian?
On fait un film, d'ailleurs, dont un extrait est dans la villa. C'est un film qui s'appelle Kilosa. On fait ce film en 3 semaines, sans sous, juste les sous pour la pellicule. On est 11. On est 11. Tout le matériel tient dans une 4L. On mange tous les midis la même chose. C'est Robert qui faisait les courses. Du jambon, des tomates et des pêches. Ou du jambon, des tomates et des melons. C'était épuisant au bout de 3 semaines. Moi, à la maison. Et à la maison, bah, c'était... il faisait... des fois, il allait faire directeur de production sur des trucs. Il avait pas encore, ils n'avaient pas encore trouvé ce moyen de se réunir pour faire cette boîte de production qui est Agathe Film. Il faisait des trucs comme ça. Moi, j'allais jouer des spectacles que j'aimais plus ou moins, des fois. Et c'était difficile. Et il n'y avait pas beaucoup de sous. Et je dirais pas, c'était la bohème, c'était génial. Non, c'est emmerdant de pas avoir d'argent. Il faut quand même que les gens le sachent.
C'était pas tous les jours facile.
Non, pas du tout. Et puis, c'est vrai que c'était pas toujours facile et que les premiers films... Bon, il allait à Cannes, le dernier été va à Cannes, il y a des bons papiers. C'est celui qui marche bien. On fait un autre film qui s'appelle Rouge Midi. On se fait massacrer, mais massacrer. Et on va aussi à Cannes dans quelque chose qui ressemble à la semaine de la critique. À ce moment-là, ça s'appelait Perspective en France. Une projection, mais terrifiante, terrifiante. Voilà, sortie de la projection, les gens vous changent de trottoir, vous parlent plus, voilà. Et ça a duré, Rouge Midi, Kilossa, Dieu vomit les tièdes, À la vie, à la mort, vous voyez, et on arrive à Marius. Mais avant, on rame, hein.
Mais avant, il y a eu le premier film, donc Dernier été, ça se passe à l'Estac. Dans ce film, vous êtes Josiane. Mm-hmm. Comment regardez-vous, comment voyez-vous Josiane aujourd'hui ?
Elle n'existe plus. Il n'y en a plus. Elle a plus de 50 ans, mais il n'y a plus des filles comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus des jeunes ouvrières, il y en a encore, mais elles vivent plus dans un quartier comme celui-là, un quartier où il y a quand même... puisque Dernier été, ça raconte déjà... le début de la mort du quartier, hein. C'est ça que ça raconte. Donc, c'était un quartier très populaire, c'était un quartier où il y avait beaucoup, tout le monde... C'est embêtant aussi, hein, les mauvais côtés de ce quartier où tout le monde connaît tout le monde, où on sait ce que la bonne femme du troisième, si elle couche avec le mec qui est de passage, enfin, on sait tout quand même dans ce quartier. Moi, j'étais du centre de Marseille, quand j'arrive à l'Estac, je suis éberluée. Parce que l'Estac d'aujourd'hui que tout le monde connaît, que tout le monde veut aller visiter, c'est pas l'Estac que j'ai connu moi. Moi, je pleurais de rire à longueur de journée. Il y avait cette contre-culture qui était là. Les prolos étaient fiers d'être prolos, les dockers étaient fiers d'être dockers. Et c'était mais une invention orale dans les bistrots. Mais je pleurais de rire. C'était génial. Et donc cette Josiane de Dernier été, elle naît au milieu de tout ça, de ce quartier-là. De ce quartier où il y a énormément d'entraide. Aujourd'hui, il y a des jeunes ouvrières, il y a des jeunes employés, des filles qui vivent dans des quartiers où la paupérisation est beaucoup plus grande. À ce moment-là, il n'y a pas encore le chômage qu'on connaît aujourd'hui et qu'on connaît depuis un moment. Les gens, ils peuvent changer de travail, ils trouvent du travail 3 jours après. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, le héros, ce que dit Gérard. Dans Dernier été, il dit, bon, je m'en vais, mais je m'en fous, dans 2 jours, je trouve un autre travail. Donc, il y a une certaine... dignité, gloire, superbe de la classe ouvrière et qui a beaucoup de mal à exister aujourd'hui, vous voyez. Donc elle est, Josiane, elle est là-dedans et puis elle est toute fraîche, elle est tout...
C'est une petite flamme qui s'est éteinte.
Ouais.
Dès le début, il y avait eu le prix Jean Sadoul pour Dernier été. Il y avait déjà un public de cinéphiles, des fidèles pour les premiers films. Mais en 97, avec Marius et Jeannette, c'est une toute autre histoire. Le succès et la notoriété tombent sur la maison Guédiguian. Le grand succès, public et critique, des récompenses, des prix. Pour vous, le César de la meilleure actrice, comment accueille-t-on le succès, la reconnaissance, quand on a longtemps été dans un cinéma un peu à l'écart et un peu fauché aussi? Qu'est-ce que ça change dans sa vie professionnelle et personnelle? Comment vous, Ariane Ascaride, avez-vous vécu tout ça?
Ça change tout. Mais ça demande, en tout cas en ce qui me concerne, il y a un truc que je veux dire parce que c'est assez génial. Quand j'ai eu le César, le samedi soir, il y a plusieurs choses qui étaient incroyables. Je suis sortie... Alors, mon père venait de mourir très très peu avant. En fait, mon père est mort une semaine avant la sortie de Marius et Jeannette. Je pense que mon père est mort, s'est dit, bon, je peux mourir, la petite, ça va aller. Vraiment, j'ai toujours pensé ça. Et quand je suis sortie de scène, parce que j'étais quand même assez émue, parce que Clint Eastwood, qui comprenait rien à ce qui se passait, puisqu'il ne comprenait pas le français, mais je sais pas, quand j'ai parlé, à la fin de mon petit discours, il s'est levé. Comme c'était l'invité d'honneur, toute la salle s'est levée. Donc, J'étais là sur scène, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'est Daniel Toscan-Duplantier qui m'a ramenée dans les coulisses, où je suis tombée dans les bras de quelqu'un dont je suis petite de taille, dont je voyais pas la tête, qui me disait, je vous adore, j'ai voté pour vous, j'ai levé la tête, c'était Johnny Hallyday. Donc, si vous voulez, les trucs s'enchaînaient comme ça, je me disais, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas là. C'est pas possible. Après, vous descendez, il y a une forêt de micros, vous faites une interview et tout ça. Et comme ça faisait un peu, je sais pas, ça a dû faire un peu un effet, cette fille qui avait César, quand je suis sortie du théâtre, il y avait énormément de gens qui voulait m'approcher. Robert était foudrage, disait aux gens, laissez-la respirer. Donc, du coup, je me suis retrouvée entourée de gardes du corps qui avaient été les gardes du corps de Clint Eastwood, qui était déjà, lui, monté dans sa voiture. C'était très bizarre. Et Robert, qui voulait pas que les gens m'approchent, enfin, c'était assez étrange, d'ailleurs. Il avait peur. Il avait peur pour moi. Dit, on va aller au Fouquet's à pied. Donc, vous avez devant vous la seule fille qui a eu le César qui est arrivée au Fouquet's à pied, avec les gardes du corps qui marchaient. Puis au bout d'un moment, on passait par les rues de derrière, j'ai dit, écoutez, ça va, messieurs, c'est bon, on va arriver. Et donc, je suis arrivée comme ça, à pied, avec ma fille Valentine, qui sortait pour la première fois dans le monde, et qui avait mal aux pieds parce que j'avais passé une paire d'escarpins, et qui est arrivée avec les escarpins à la main. Enfin, voilà, mais moi, ça me plaît bien, quoi. Ça me plaisait bien. Et le lendemain, j'ai un ami qui me dit, va acheter le journal du dimanche. Il me réveille le lendemain matin. Bon, je vais acheter le journal du dimanche et j'étais mais énorme en première page. Et le mec qui m'a vendu le journal m'a pas du tout reconnu. Ben, c'est ça mon métier. Et c'est ça qui me permet de tenir les pieds sur terre. Parce que tout ça est éphémère, quoi. Et puis même si je suis connue ici, si je vais en Turquie, personne ne sait qui je suis, quoi. Faut quand même remettre les choses à leur place. Et c'est ça qui m'importe. Alors oui, ça change tout. Ça a tout changé, parce que du coup, moi qui ai peur en avion, je me suis mis à faire le tour du monde pour aller présenter des films, et pour aller présenter celui-là, et rien comprendre, parce que chaque fois, dans n'importe quel pays, que ce soit au Japon, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Sud, soit à New York, le film marchait exactement de la même manière. Donc c'est vrai que là, on commence à se dire qu'on a fait quelque chose d'universel, justement en étant très local, mais c'est ce que dit Tchekhov, hein, c'est vous, si tu veux parler du monde, parle de ton village, hein, c'est pas plus compliqué, et je crois vraiment à ça. Et puis, alors pendant un certain temps, vous vous dites, bon, alors il faut peut-être que je fasse comme les autres, quoi, il faut que peut-être j'ai une manière de faire, je sois dans les soirées mondaines, ou bon voilà. Et tout le monde vous dit, ah, okay, en plus, vous arrivez, tout le monde dit, quel naturel, quelle fraîcheur, vous êtes formidable, c'est un plaisir de vous voir. Ouais, super, d'accord. Mais enfin, voilà, j'ai rencontré des gens formidables, vraiment. C'était marrant parce que c'était des gens que j'avais vus au cinéma et je ne m'attendais pas à faire des vraies rencontres. Et voilà, par exemple, moi, j'ai une tendresse incroyable, on se voit très peu pour Isabelle Huppert, c'est quelqu'un vraiment que j'aime beaucoup, qui a un truc qui me plaît, quoi. Voilà, elle me plaît, elle me fait, en fait, je crois qu'elle me fait un peu rire. Je sais pas si ça lui fait plaisir que je dise ça, mais il y a un truc, j'ai toujours un sourire attendri quand je la regarde. Et bon, voilà, j'aurais jamais pensé avoir ce rapport-là avec elle, même si on n'est pas proches, quoi. Puis d'autres gens comme ça que j'ai rencontrés, et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il faut pas catégoriser, je sais pas comment on dit, les gens, quoi. Faut pas mettre les gens dans des cases. Or en France, on passe son temps à mettre les gens dans des cases. Il faut, ça m'a appris aussi à être ouverte. Et après, bah, j'ai continué à faire mes courses et j'y tiens. Vraiment, j'y tiens. Et je prends le métro. Je me déplace qu'en métro. À part le soir quand je joue au théâtre, parce que pour rentrer, c'est mieux de prendre la voiture. Mais sinon, je suis tout le temps en métro. Voilà.
Cette Jeannette a-t-elle été pour vous un embarras, un poids à un certain moment?
Bien sûr. C'est comme cette pauvre Anne de Mazis avec Fanny, vous voyez. Elle nous colle au basque jusqu'à la fin de ma vie. Mais en même temps, je lui dois tout. Je lui dois beaucoup. Et comme dirait Robert, je préfère Jeannette à Ariane, elle est moins emmerdante. Voilà, mais c'est vrai que des fois, il y a eu des fois, ah Jeannette, je vais vous raconter un petit truc qui m'a fait mourir de rire. Après Marius, on fait un film un peu plus tard qui s'appelle La ville est tranquille, qui est moi, mon film préféré, qui est un film très sombre, qui est un film que j'adore, ce qui se fait à Marseille, sur Marseille aussi, sur la ville, où vraiment le personnage très important est la ville. Et donc, je suis avec des cheveux très courts. Robert avait demandé à ce que je sois blonde. Donc, j'étais super contente parce que du coup, ça cassait complètement l'image de Jeannette.
le premier jour de tournage, je tourne sur le littoral, sur une mobylette. Je faisais de la mobylette. En jupe hyper courte, des talons aiguilles, comac, vraiment énorme. Premier plan, je suis sur le littoral. À ce moment-là, passe une camionnette avec deux jeunes dedans et qui me crie « Salut Jeannette, on est content de te voir !» Je me suis dit « Putain, ça marche pas. Même blonde, même avec les cheveux courts, ça le fait pas, quoi. » Mais pendant un moment, elle m'a, oui, elle m'a énervée. Puis maintenant, bon, bah voilà. Voilà, non, je crois que je l'aime bien, quoi. Mais moi, je ne suis pas Jeannette. Vraiment pas.
Nous évoquions tout à l'heure la rencontre de deux bandes, celle d'Ariane et celle de Robert. Et les nouveaux, comment se font-ils une place? Sur quoi se fonde la relation avec les plus jeunes, avec les générations qui n'ont pas les mêmes références, qui n'ont pas eu la même expérience générationnelle, disons? Comment ça se passe?
C'est comme un dîner de famille le dimanche. En fait, c'est vraiment ça. Alors, le truc est que c'est vrai que beaucoup... Beaucoup viennent par moi, que ce soit Anaïs Desmoustiers, que ce soit Lola Némac, que ce soit Robinson ou même Grégoire. Grégoire, je n'avais pas tourné avec lui avant, mais les trois autres, j'avais tourné avec eux. Et puis, je rentrais à la maison et je disais, j'ai rencontré des jeunes, ils sont super, ils sont vachement bien. Oh, Lola, elle est bien cette petite, ou Anaïs, ou Robinson. Et du coup, Robert venait voir les films que j'avais fait avec eux. Puis vous les voyez, en plus, souvent, Robert, vous savez, il dit une chose, il dit « Non, non, moi je travaille avec des comédiens avec qui je sais que je peux parler en dehors du plateau. » Il faut qu'il y ait une relation de personne à personne pour lui. Sinon, on ne peut pas travailler avec. Donc du coup, il parlait avec eux, et puis il leur a proposé, et puis ils sont venus, et vraiment, c'est vraiment comme venir manger le dimanche à la maison, quoi. Il y a plein de trucs qu'on fait qui les font rire, moi, je suis toujours très très intéressée par ce qu'ils racontent, comment ils racontent le métier, comment ils le vivent, comment ils décident d'avancer dans ce métier. Anaïs, bon, c'est rigolo parce qu'Anaïs, elle enchaîne les films les uns après les autres, et en même temps, c'est la petite nénette du Nord. Elle est épatante, quoi. Elle est vraiment épatante. J'ai énormément de plaisir à travailler avec elle. Lola. C'est d'ailleurs aussi une fille du Nord, hein, plutôt ses grands-parents sont à Dunkerque. C'est une fille qui, en plus, écrit, fait des spectacles, est très engagée dans son travail de création. Robinson, c'est un elfe, c'est un farfadet, et Grégoire, c'est un poète. C'est un réalisateur aussi, c'est un jeune réalisateur et c'est un poète. Et je dis poète parce qu'il écrit des poésies, parce qu'il écrit de la poésie, vraiment. Et ils nous ont aussi adoubés. C'est ça qui est beau. C'est que eux, pas simplement nous les avons adoubés, mais eux, ils nous ont adoubés. Bah, c'est génial. C'est juste génial. Et parce que ça nous permet de continuer à avancer.
Vous avez, dans les films de Guédiguian, interprété des personnages très différents les uns des autres. Marie-Jo, la femme déchirée, Majorina, la mère de famille de Rouge Midi, Tirelire, l'anti-Majorina, la femme volage dans Dieu vomit les tièdes, Muriel, Lady Jane, la vengeresse, Michel, l'ouvrière qui veut sauver sa fille dans La ville est tranquille, Anna, à la recherche de son père dans Le voyage en Arménie, Ariane, la rêveuse dans Au fil d'Ariane. Comment voyez-vous l'évolution, les variations de vos personnages au fil des années? Ariane Ascaride.
Je ne sais pas. Vraiment, sincèrement, je ne sais pas. Je crois que je pourrais parler de l'évolution de ma manière de travailler. Ça, oui. C'est-à-dire que je me suis de plus en plus libérée de choses et j'ai affronté le danger d'être à découvert. Et d'être, comme toujours, ça j'ai toujours été comme ça, au service du personnage qu'on me demande d'être. Quand j'étais jeune, j'avais quelque chose d'un peu volontariste. Je voulais prouver toujours que ça allait être très bien ce que je faisais. Peut-être parce que effectivement, ce côté de pas être légitime encore qui devait rester dans ma tête. Aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Je crois que je sais qui je suis. Je crois que je sais un peu qui je suis comme comédienne. Parce qu'on met très longtemps, hein, et on apprend jusqu'à la fin de sa vie. C'est Michel Bouquet qui dit ça, il a raison. C'est ça, j'ai vraiment compris. C'est un métier où on apprend jusqu'à la fin, mais à la fin de sa vie, quoi. Simplement, j'accepte d'être à découvert. complètement. Et puis, ben, comment ça va évoluer, j'imagine que dans quelques années, je serai, Robert, si on continue à faire des films, on sera des grands-parents, des grands-mères, des grands-pères complètement infernaux, les vieux de la vieille, ou je sais pas quoi, vous voyez. Et c'est sublime de savoir qu'on a transmis, qu'il y a d'autres, il y a les autres derrière qui vont aussi grandir. Et si on peut encore en faire une troisième génération, eh ben ce sera génial. Et ça veut dire aussi une troisième génération de spectateurs. Parce que notre métier, notre travail, il n'existe que parce que nous avons, comme ça, un rapport formidable avec un public qui nous accompagne. Voilà. J'adore quand les gens viennent nous voir, quand on fait des avant-premières, que les gens viennent nous dire « on est venu voir comment vous alliez ». Et ça, c'est génial, quoi. Parce que sans ce public-là, on n'existerait pas. Pas du tout. Et c'est un public actif. C'est pas un public qui subit. C'est un public qui pense, qui réfléchit, qui a envie de pleurer, de rire. C'est ce que j'appelle un public actif. C'est ça que j'ai envie de dire. Les gens, quand vous vous asseyez dans des salles de cinéma ou quand vous vous asseyez dans des salles de théâtre, vous êtes pas, vous n'existez pas. Au contraire, vous existez énormément. Et votre pensée, et vos réactions, et vos émotions, eh ben, c'est absolument fondamental. Vous êtes vivant. C'est ça, la vie.
Travailler avec la personne dont on partage la vie, est-ce que c'est plus compliqué ou au contraire plus simple qu'avec quelqu'un d'autre ?
Ça a été au départ compliqué. On s'est beaucoup foutu sur la gueule. Même c'est allé très loin. En fait, pour moi, c'est pas du tout compliqué de travailler avec lui, mais vraiment pas du tout. C'est pour les autres de l'équipe que c'est compliqué. C'est vrai que je peux avoir, ça je ne l'ai pas perdu, je peux avoir une grande gueule et je peux parler assez directement. Je suis pas méchante, je suis pas capricieuse, je suis pas rien du tout sur un plateau, tout le monde a des trucs à faire et je suis très respectueuse, les gens sont pas là pour s'amuser. Mais des fois, je sens bien que sur le plateau, les autres se disent « Ah là là, attends, comment je me positionne par rapport à eux deux ?» Alors que, en fait, moi, je suis juste là, je suis au service. Je suis au service le temps de la journée de tournage, hein. Après, quand la journée de tournage est terminée, je suis plus au service. Mais le temps de la journée de tournage, je suis au service de mon personnage, au service de mon réalisateur. Vraiment. De temps en temps, je dis que ce qu'il fait, c'est pas bien, mais j'ai appris à le lui dire en douce. Pas le lui dire devant les autres. C'est ça que je faisais pas avant.
Au cinéma, on vous a vu notamment dans des films d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Dominique Cabrera, Emmanuel Mouret, Marie Castille, Mention Char. Mais appartenir autant au cinéma d'un réalisateur ne vous a-t-il pas éloigné d'autres projets, d'autres cinéastes ?
Oui, certainement. Oui, certainement, j'en suis sûre. Et puis parce que si vous voulez, les gens se creusent pas trop la tête, quoi. Les gens se disent « Ah oui, elle fait des films à Marseille, ah oui, voilà, c'est la comédienne marseillaise. » ou voilà, tous ceux qui ont pris le risque de travailler avec moi ont toujours été, je crois, extrêmement contents de travailler avec moi. Et moi, j'ai été extrêmement contente de travailler avec eux. Maintenant, je vais vous dire une chose, ça va peut-être éloigner. Mais moi, à part quelques-unes, elles sont pas nombreuses, je souhaite à toutes les actrices d'avoir autant de rôles à défendre que les rôles que j'ai eu à défendre dans les films de Robert. Voilà. Parce que c'est quand même aussi ça, notre métier. Faut avoir du plaisir à défendre des rôles. Les rôles de femmes que j'ai eus, comme vous avez dit tout à l'heure, eh ben, il n'y a pas tant d'actrices qui les ont eues, ceux-là.
Les films de Robert Guédiguian, les avez-vous parfois initiés? En avez-vous parfois été à l'origine?
Le voyage en Arménie. Le voyage en Arménie, c'est celui que j'ai écrit avec Marie Desplechin. Et c'est moi qui ai eu l'idée, parce que la première fois qu'on est allé en Arménie, tout le monde disait à Robert, venez faire un film ici, venez faire un film ici. Et du coup, il cherchait, il trouvait pas. Et c'est quand je faisais Brodeuse et Léonore Fauché que je tournais à Lyon, je suis passée un soir devant une cordonnerie, une très belle cordonnerie à Lyon, qui avait un nom arménien. Et je sais pas, l'idée m'est venue comme ça, mais je pense aussi que, parce que si vous voulez, le voyage en Arménie a, calfeutré, caché, il y a mon rapport avec mon père à l'intérieur de ce film. Et je n'aurais
parce
jamais...
Parce qu'elle cherche son père. Oui, Anna cherche son père.
Elle cherche son père qui est parti mourir en Arménie. Et qui est arménien, lui. Et elle s'est jamais préoccupée de cette culture-là, quoi. Et c'est parce qu'elle va le chercher en Arménie qu'elle découvre cette culture, qu'elle découvre ses racines.
Et j'aurais jamais pu faire un film où je parlais du rapport avec mon père en allant en Italie, par exemple. Vous voyez, il fallait que ça soit ailleurs. C'est-à-dire que je me suis cachée derrière des choses pour raconter des trucs qui étaient, voilà, ce lien que j'avais, et ce lien qui était effectivement que j'avais été élevée un peu comme un garçon, parce que c'est un peu un personnage qui a un côté un peu garçon, comme, voilà. Et donc, j'ai téléphoné à Robert, je lui ai dit que j'avais cette idée-là, il m'a dit, écoute, écris-le, si c'est bien, on le fait. Et puis, j'ai rencontré Marie, avec qui, depuis, bon, j'ai fait plein d'autres choses, et puis, qui est vraiment une amie. Et Marie a été d'accord pour, parce que vous savez, vu mon rapport à l'écriture, à la littérature, me dire, écrire moi, encore une fois, je me sentais pas légitime, donc je suis allée demander à Marie Desplechin et elle a été d'accord et on a fait ça, quoi.
La question de quitter le cinéma de Robert Guédiguian s'est-elle déjà posée pour vous ?
Non, pas encore, mais elle va se poser un jour. C'est sûr. Elle va se poser un jour et je pense que ça sera vraiment une douleur. Mais s'il peut continuer à faire des films avec Anaïs ou Lola ou d'autres, c'est génial. C'est juste génial. C'est comme, vous voyez, c'est comme si vous me disiez, bon, ben, peut-être un jour, vous ne pourrez plus aller dans votre maison de campagne, c'est vos filles qui iront. Ben, je dis, bah oui, ce serait bien. Mais c'est vrai que ça sera une... Il faut être sincère, bien sûr que ça sera une douleur. Mais comment dire, vous savez, c'est rigolo. Oui, je suis éternelle. Je suis éternelle sur la pellicule.
Merci Ariane Ascaride. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alban Penaranda avec Ariane Ascaride. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Cyprien Creton, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.